semble bien qu'il faille, si on veut regarder l'histoire du texte lui-même, qu'il y a un noyau de souvenirs, et de souvenirs qui semblent immédiats, dans l'évangile de Jean, qui semble être décrire, par exemple, la Jérusalem de l'époque d'avant la mort de Jésus. Donc là, il semble bien que des souvenirs qui forment le noyau de l'évangile soient quelque chose de bien historique, si on peut s'exprimer dans ce sens-là. Et donc ça remonterait au souvenir de Jean, le fils de Zébédée et le frère de Jacques, il semble bien. Mais il semble aussi que ce ne soit pas ce personnage-là qui ait lui-même composé l'évangile. Que cet évangile a subi des transformations. Alors, généralement, on dit qu'il y a eu deux époques de transformation qui auraient mis en évidence une époque davantage ce qu'on appelle le récit, ce qu'on raconte dans l'évangile de Jésus. Un autre aurait mis davantage l'accent sur les paroles de Jésus, qui ne sont pas immédiatement des paroles de Jésus, mais qui sont des paroles de Jésus qui ont été reprises par une communauté. Il y a certains auteurs qui disent ceci, qu'il y aurait eu une première édition de l'Évangile, si vous voulez, à Jérusalem, avec probablement un accent mis davantage sur le récit, et puis qu'il y aurait eu une autre tradition qui viendrait d'Éphèse. On dit que Saint Jean a été à l'Éphèse, ça pourrait bien convenir, c'est entre autres ce que Père Boismard et Lamouille veulent exprimer, mais ils compliquent un peu plus les histoires quand même, ils découpent plus le texte. Mais c'est possible que cela soit passé comme ça. De toute façon, il y a eu certainement des développements. Et puis, il y a eu la rédaction finale. La rédaction finale que l'on place à peu près à la fin du 1er siècle. Il semble que ce soit assez exact, en correspondance avec la tradition, bien que ces thèses tardives aient été mises en question par des gens comme Robinson, par exemple, il y a une dizaine d'années. Mais c'est très difficile de le prouver. Très difficile de prouver. On peut montrer qu'il y a eu un développement. Là, je vous renvoie au troisième tome, la synopse des évangiles. Benoît. Boismard et Lamouille qui ont fait ça. La reconstruction qu'ils font est quand même un peu hypothétique. Je ne tiens pas du roman. Parce qu'ils divisent vraiment ça en petits morceaux. Hein? Mais il y a certainement du vrai à l'intérieur. Il y a eu un chemin. À l'intérieur même de leur réflexion, il y a quelque chose de très fondamentalement vrai. On ne peut pas dire que ce soit Jean, le disciple du Seigneur, le fils de Zébédée, qui a écrit lui-même tout l'évangile tel qu'il est. Mais l'évangile tel qu'il nous est livré par le rédacteur définitif a une cohérence. Nous verrons qu'il y a deux ou trois petits détails qui nous paraissent à première vue un peu incohérents, mais qu'il a sa cohérence. Et jusque dans l'ordonnance. Vous savez que on a souvent posé la question, et notamment Bultmann a discuté longuement pour savoir si on n'avait pas interverti le chapitre 5 et le chapitre 6. Je ne pourrais pas lire le chapitre 6 avant le chapitre 5. Et vous verrez pourquoi quand nous serons là. Mais tout ça reste hypothétique. Et il est clair que le rédacteur définitif à la fin du 1er siècle avait quelque chose de bien unifié dans sa tête. Mais il ne nous a pas dit autre chose sur sa vision que le texte lui-même. Heureusement. Sinon, vous voyez, on aurait tout enfermé dans sa compréhension. Ça, c'est toujours le danger. C'est qu'est-ce qu'il a voulu dire? Ah, maintenant, je sais ce qu'il a voulu dire. Oui, mais à ce moment-là, je me suis tout à fait déconnecté. Et moi, qu'est-ce que le texte dit en moi? Pas qu'est-ce que le texte me dit, mais qu'il dit en moi. Ben, ça aussi, j'ai un... Chaque lecture du texte est chaque fois un acte de foi. Alors, une fois qu'il a terminé, nous reviendrons là sur l'ensemble du prologue. Chaque matin, je ferai l'enchaînement. Dès qu'il a terminé cela, il va maintenant reprendre le témoignage de Jean en montrant l'importance qu'il a pour Jésus et l'importance que Jésus a pour Jean. Et nous entrons alors, avec toute la fin du premier chapitre, nous entrons dans ce qu'on pourrait appeler le noviciat des disciples. Comment se fait-il que des gens ont cru à Jésus? Et nous allons voir ce texte, nous poursuivons cet après-midi. Ce qui est intéressant chez saint Jean, et que nous n'avons pas chez les synoptiques, c'est comment les disciples s'appellent l'un l'autre. Chez les synoptiques, Jésus passe, il en prend quatre, et il le suit. Donc ça va très vite. Tandis que saint Jean nous montre, et là nous avons probablement un détail très profondément historique, saint Jean nous montre que ça ne s'est pas passé aussi rapidement qu'on pourrait le lire chez les autres. Au contraire, on a dû discuter le coup longuement. Il a fallu du temps pour découvrir qui est. Et celui-ci est le témoignage de Jean. Et donc il fait ressortir tout du témoignage de Jean-Baptiste. Les disciples de Jésus ont d'abord été les disciples de Jean. Ce qui ne nous est pas dit par les synoptiques. Donc là, nous avons un élément tout à fait personnel. Celui-ci est le témoignage de Jean quand ils envoyaient auprès de lui les Juifs de Jérusalem, des prêtres et des Lévites, afin qu'ils lui demandent « Toi, qui es-tu ?» Il confessa. Et il ne nia pas. Il confessa. « Moi, je ne suis pas. » Ils lui demandèrent « Mais qui est donc toi ? » ?»« Élie es-tu ?» Il dit « Je ne suis pas. » Le prophète es-tu, toi? On dit non. Il lui dit donc, qui es-tu? Afin que réponse nous donnions à ceux qui nous mandaient. Que dis-tu au sujet de toi-même? Jean disait au sujet de la lumière. Que dis-tu au sujet de toi-même? Il déclara, moi, voix d'un criant dans le désert. Faites bien droit le chemin du Seigneur, selon ce que dit Isaïe le prophète. Ah, ici, il demande. Isaïe le prophète. C'est le texte que je vous soulignais tout à l'heure. Chapitre 40, verset 3. Et des envoyés étaient entre les pharisiens, et ils se trouvaient avoir été envoyés par les pharisiens. Et ils lui demandèrent, et ils lui dirent, pourquoi donc baptises-tu? Bien selon la traduction Chouraki, immerge-tu. Une immersion. Si toi, tu n'es pas le Christ, ni Élie, ni le prophète. Il leur répondit Jean, disant, moi, je baptise dans l'eau. Médiant de vous, c'est tenu debout, quelqu'un que vous ne savez pas. Celui qui vient derrière moi, dont je ne suis pas moi, digne, ajusté littéralement, que je délie la courroie de sa sandale. Ceci, à Béthanie, arriva, il y a deux mains, au-delà du Jourdain, là où il était, Jean baptisant. Donc ici, on met en évidence le rôle de Jean qui avait déjà été mis en évidence, mais d'une manière très différent dans le premier. Et comment commence l'évangile? Il commence par un envoi. Ils ont envoyé. Le terme envoyé, hein, que nous avons déjà vu, hein, qui signale le prophète, va revenir tout au long de l'évangile pour désigner Jésus. Jésus comme envoyé, donc Jésus comme prophète. Mais voici des gens qui sont envoyés, des prêtres, des lévites, qui viennent de chez les juifs de Jérusalem, et on vous répète au verset 24 que ces envoyés étaient des pharisiens. Ils avaient été envoyés par les pharisiens. Donc c'est important, si on le note autant de fois, envoyés par les pharisiens, par les juifs de Jérusalem, et ce sont des prêtres de l'Église. Donc l'évangile de Jean commence par une enquête, une descente de parquet. On vient, précisément, interroger le témoin. C'est ça que fait le parquet. On commence l'instruction. Et ceci est important, pour, parce que ça vient d'emblée, et pour découvrir ce qu'est l'évangile de Jean. L'évangile de Jean est vraiment et tout entier un procès. Donc on commence par une interrogation. Et l'interrogation du témoin. Donc il faut savoir si ce témoin est fiable. Mais voyez que le personnage de Jean-Baptiste est bien sûr Jean-Baptiste, mais il est aussi figure de tout croyant. Tout croyant baptisé, il faut savoir s'il est fiable. Celui-ci est le témoignage de Jean. Quand ils envoyaient auprès de lui, et on dit qui envoie? Les Juifs de Jérusalem. On ne nous a encore pas dit où il était, hein. On ne sait pas où on est. On vous dit simplement qu'on envoie les Juifs de Jérusalem. Et ça, c'est la seule instance qui puisse vraiment découvrir la véracité d'un témoin, c'est-à-dire les officiels, les prêtres et les lévites, ont compétence en matière de loi, en matière de témoignage. Ils sont les juges suprêmes. Ils sont les juges, mais non sans les pharisiens qui se trouvent être les gens qui, sur le plan de l'autorité morale, ont compétence. Donc, vous voyez, il y a une compétence religieuse, officielle, qui est celle des prêtres et de l'Église. Et puis, il y a une compétence reconnue, cette fois-ci, une compétence de sagesse, si vous voulez, une compétence de doctrine, qui vient des chefs des pharisiens. Donc vous avez au début et au milieu cette expression, ils sont mandatés par d'autres qui sont les officiers ou les reconnus. Donc l'instruction est menée. Et puis on signe au verset 28 en vous disant, l'endroit où l'on se trouve, c'est Béthanie au-delà du Jourdain. On ne sait pas où est Béthanie au-delà du Jourdain. On connaît Béthanie près de Jérusalem, mais Béthanie au-delà du Jourdain, Bethonia, maison de pauvreté, maison d'oppression, maison d'obéissance, pour prendre dans un sens ou dans un autre. Béthanie au-delà du Jourdain, donc, je sais pas. On le met généralement à quelques 10 ou 15 kilomètres de Qumran. Près, un peu avant l'embouchure du Jourdain, une dizaine de kilomètres avant l'embouchure du Jourdain. Donc pas loin de Jéricho. À l'endroit que l'on appelle Bet Abara, c'est-à-dire le passage, maison du passage, Bet Abara. Ça, c'est traditionnel. Ici, on vous dit simplement, au-delà du Jourdain, là où il était, Jean, baptisé. Donc ici, qu'avons-nous? Un rite, un baptême, une immersion. Mais un rite signifie toujours une réalité profonde, un rite qui ne serait que rite n'a pas de sens dans le judaïsme. Un rite symbolise, c'est-à-dire signale, dans les gestes mêmes qui sont utilisés, il signale une réalité plus profonde. On fait prendre un bain à quelqu'un, et on le fait publiquement. Ce n'est pas ce qu'on fait en général. Et donc, ce rite est en même temps un témoignage. De même que je plonge dans l'eau qui fait mourir et qui donne la vie, ainsi je me plonge dans celui qui fait mourir et qui donne la vie. C'est celui qui fait mourir et qui fait vivre. Rappel le cantique d'âme. Donc ce rite symbolise une mort et une renaissance. Une mort à soi et une renaissance à Dieu. Donc quelqu'un qui s'instaure baptiseur ou immergeur, quelqu'un qui, d'une manière ou d'une autre, ou bien a reçu, ou bien s'arroge un certain pouvoir. Il n'était pas le seul. On a dénombré, je crois, c'est 25 ou 26 sectes baptistes à l'époque de Jésus. Qumran était-il une secte baptiste? On ne pense pas, ce n'était pas vraiment des baptêmes, mais c'était des bains rituels, presque. Donc, purification. Alors, qu'est-ce qu'on dit ? Ah ! On pose simplement une question de compétence. Pourquoi baptises-tu ? Quelle est ta qualité de baptiseur ? Donc, toi, qui es-tu ? Ça, c'est très important, parce que c'est la question qui nous est posée dès le départ de l'Évangile. La parole nous pose une question. Toi, qui es-tu ? Pourquoi tu immerges ? Car que nous le fassions concrètement, que nous l'utilisions sur les, ou spirituellement, c'est-à-dire que nous aidions nos frères et nos sœurs à entrer dans l'intimité de Dieu, nous immergeons en Dieu. Transmettre la foi, c'est immerger en Dieu. Et écoutez ça. Et ne n'y a pas. Il confesse ça. Donc, trois fois, on vous dit la même chose, mais en des termes différents. Le mot confesser n'est pas exactement le même. Un et l'autre. Je vais vous dire comment traduit Sir Jean d'Arc. Merci. Ah si, c'est le même mot des deux côtés. Il déclare, voilà comment elle traduit. Elle met au mot présent. Il déclare, il ne nie pas. Il déclare, on peut le guesser, et c'est une confession de foi. Et il déclare, moi, je ne suis pas le Messie. Je ne suis pas le Messie. Donc, il dit qu'il ne l'est pas, mais il se situe par rapport à, en disant cela. Donc, il n'est pas le Messie, mais il est dans la ligne. Alors, qui donc ? Est-ce que tu es Élie ? Élie était celui qui devait revenir pour indiquer le Messie. Il dit non. Qui es-tu afin que nous donnions une réponse à ceux qui demandaient ? Que dis-tu au sujet de toi-même ? Et voyez, et il se définit non pas lui-même, mais par rapport à la parole. Après, par rapport à la parole en Isaïe. Donc, il y a déjà là un accomplissement par Jean-Baptiste, de la parole d'Isaïe. Moi, je suis la voix d'un criant. Dans le désert. J'ai bien droit le chemin du Seigneur, selon que dit Isaïe de moi. Donc, en se définissant comme cela, il se définit comme la figure, ou bien le visage, disons plutôt, le visage qui dit concrètement qui était celui dont parlait Isaïe, et qui n'avait pas de nom. En fait, c'est un crieur. Et il donne une physionomie concrète à ce crieur. Donc il se met vraiment dans la ligne, dans le droit fil de la parole d'Isaïe, et en même temps, il donne à ce personnage resté anonyme un nom. Voilà ce que je dis. Voilà. Il se définit par rapport à une parole. Mais en même temps, il définit cette parole de manière concrète. Alors on lui demande, si tu es celui-là, de quel droit baptises-tu? Tu n'es qu'une parole, bien sûr, parole. Pourquoi ta parole s'adjoint-elle à un geste, un rite? Pourquoi donc baptises-tu? Que signifie hein, ton immersion? Si toi, tu n'es pas le Christ, hein, il vient de parler de Messie, tu n'es ni le Messie, ni Élie, ni le prophète. Le prophète, c'était Jérémie. Et là aussi, il y avait toute une tradition qui disait que le prophète Jérémie allait revenir au moment du Messie. Il leur répondit, Jean, disant, « Moi, je baptise dans l'eau. » Donc le rite que je fais est un rite qui a son importance de purification, dans l'eau, hein, donc dans la purification. Au milieu, ou plus littéralement encore, médiant de vous, il passe au milieu de vous, s'est tenu debout quelqu'un que vous ne savez pas. Donc vous n'avez pas l'intelligence. Et pas ça, malgré tout, prêtre et lévite, donc que vous soyez des officiels, ou que vous soyez des compétences reconnues. Déjà, eh bien, vous ne savez pas. Et le fait, cela fait allusion à une tradition juive qui semble avoir existé à l'époque, elle a existé certainement au deuxième siècle, mais qui semble avoir existé à l'époque. Et cette tradition juive disait que le Messie, quand il viendra, restera caché pendant un certain temps. Effectivement, hein, Jésus avait pu cacher. Que à partir d'un certain moment, Élie allait le désigner. Donc Élie, revenu sur terre, allait le désigner. La question évidemment se posait alors dans le judaïsme, mais comment va-t-on reconnaître Élie, puisqu'on n'a pas connu? Ce n'est pas son visage, comment va-t-on reconnaître? Non, et donc les rabbins disaient, il se fera connaître. C'est aussi clair que l'éclair. Quand il y a l'éclair, depuis un endroit jusqu'à l'autre, vous le voyez. C'est évident. Jésus reprendra d'ailleurs la même image. L'éclair partout, tout le ciel, on ne peut pas me parler. C'est évident. Donc, c'est pas comment ça arrive. Il y a au milieu de vous, c'est celui de vous, quelqu'un que vous ne savez pas. Et moi, je suis parmi vous, au milieu de vous, comme là. Là où deux ou trois sont réunis en mon nom, je suis au milieu d'eux. Il reprend une parole de Jésus. C'est
comme du condamne qui ignore.
Oui, qui ignore. Ça veut dire qu'il ignore. Ah, je m'arrête. J'ai quelqu'un que vous ne savez pas, celui qui vient derrière moi, dont je ne suis pas digne. Axios signifie en grec adapté. Ajusté à. Je ne suis pas ajusté. Je ne suis pas au même plan. Je ne suis pas ajusté pour délier la courroie de sa sandale. Délier la courroie de sandale, c'est un travail que faisait un esclave, et pas toujours un esclave juif. Donc, c'est montrer une indignité radicale, de toute manière. Il me semble aussi que délier la courroie de sa sandale, nous voyons le livre de Ruth, ce soit un signe d'adoption. Nous reviendrons là, c'est parce que je n'ai pas le temps de reprendre cela. Un signe d'adoption. Un signe d'adoption au sens où on se prend pour femme. On dédie la courroie de sa femme. Ça voudrait dire, je ne suis pas digne de vivre ce qu'il va vivre comme union conjugale entre le ciel et la terre, entre le Seigneur et et certains voient, et je crois, à raison, un rapport avec les noces de Cana qui va venir après. Ceci, à des amis, arrive à haute la là où Jean était.
Bonne santé.
Lundi 17 après-midi, 14h30, nous en sommes au verset 19.
Rendant à Dieu, en partant de Dieu, qui n'a rien d'autre comme le visage que la lumière. Mais c'est un chemin de vie qui retourne dans le Saint-Père. Vous avez au début et à la fin, vous avez Jean-Baptiste, le témoin. Les ténèbres qui n'ont pas pu être saisies par la lumière. Nous devenons enfants de Dieu, la fête. Les deux mains qui voulaient saisir la lumière se trouvent maintenant deux mains d'offrande, et celui qui annonçait la lumière, il faudrait même mettre encore en plus l'ombre du personnage sur le sol, parce que justement la lumière qui passe à travers le témoin, et le témoin indique le fils du Père, le bien-aimé du Père. Une manière de représenter très rapidement, mais le prologue, mais cela reviendra, parce que nous allons devoir faire cinq fois le prologue, avec le prologue compris, à travers tous les évangiles. Alors voilà, nous avons jusqu'ici regardé qui était, nous avons regardé jusqu'ici qui était le témoin. Maintenant nous allons voir comment le témoin fonctionne pour amener ses disciples à Jésus. Donc le témoin, Jean-Baptiste, le prophète, chacun d'entre nous, c'est celui qui, qu'il le veuille ou non d'ailleurs, parce qu'il l'est nécessairement fils de Dieu, mais il vaut très mieux de savoir ce qu'on est, hein, parce qu'il est fils de Dieu, il est passage de lumière, plus ou moins opaque, suivant les moments, suivant nos possibilités, suivant nos ouvertures, là, nous le voyons, chacun d'entre nous le sait. Et donc, on ne vient pas à Jésus tout ça. On est toujours conduit pour une médiation. Et cette médiation n'est jamais unique, elle est toujours multiple. Là aussi, que nous le voulions ou non. C'est comme ça que ça se passe. Pourquoi ? Parce que le monde est société. Et justement, ce que les versets 29 à 51 veulent nous dire, c'est comment nous nous amenons les uns les autres à Jésus. Je vous dis, c'est vraiment le noviciat. Comment on entre petit à petit dans la mouvance de Jésus, comment on découvre sa personne. Et Saint Jean a voulu mettre cela en scène d'une manière bien déterminée. D'abord, il utilise le schéma d'une semaine, ou bien le schéma d'une semaine, en commencement, Dieu créa le ciel et la terre. La Genèse commence par une semaine de création, et il ne faudra pas s'étonner que notre Genèse commence par une semaine de création. Pour devenir enfant de Dieu, il faut être créé, recevoir d'être. Recevoir son maître à nouveau. Tout problème est là, bien entendu. Nous verrons que ça pose pas mal de gros combats. D'ailleurs, l'Évangile ne cessera de nous montrer ce combat. Donc une semaine, et suivant cette semaine, sont distribués un certain nombre de titres de Jésus. Des titres qui sont plus exactement que des titres, des manières d'être. Donc Jésus va se manifester aux personnes qu'il rencontre de manières différentes. Et toutes ces manières d'être sont évidemment reprises à l'Écriture, à l'Ancien Testament. C'est trop clair, les gens qui sont nourris dans l'Ancien Testament ne peuvent que penser à partir de cet Ancien Testament. Donc, nous nous représentons une semaine de création. Une semaine, c'est un processus il y a 7 jours, et 7 jours, c'est, comme nous l'avons déjà vu un certain nombre de fois, 3 plus 4, c'est-à-dire l'homme au milieu du monde. 3, un chiffre de l'homme, relation à Dieu, relation à soi, relation à autrui et au monde. Et 4, les 4 points cardinaux, donc la géographie. L'homme dans le monde, c'est-à-dire l'histoire. On dit que 7 c'est un chiffre parfait, mais il n'est pas parfait n'importe comment. C'est le chiffre parfait du déroulement de l'histoire humaine. Et donc c'est le déroulement de l'histoire humaine, non pas en termes de création du ciel et de la terre, mais en termes de création de l'homme. Comment l'homme découvre-t-il qui il est? Donc nous avons vu Jean-Baptiste exprimant devant la... le détachement des gens qui sont venus de Jérusalem, qu'il n'est pas ni le Christ, ni Élie, ni prophète, et que, ni le prophète, pardon, et qu'il ne baptise dans l'eau que parce que quelqu'un vient. Donc son baptême se signale comme une préparation. Et je vous avais dit le fait qu'il y avait une question de sondage. Et vous voyez parfois certaines reproductions d'icônes de la Vierge Marie avec l'enfant Jésus. Vous avez l'enfant Jésus qui se serre contre sa maman et qui perd une sandale. Hein? Une sandale d'acquis. Qui va tomber. Et cette sandale qui va tomber est reprise au livre de Ruth. Vous savez certainement, on l'a oublié avant. Les modernes ont oublié que ça venait du livre de Ruth, bien sûr, mais les fabricants d'icônes ne l'ont certainement pas oublié. Alors, voilà qu'est-ce que dit le livre de Ruth, qui vient, vous savez que le livre de Ruth est placé, parce que malencontreusement, non pas malencontreusement, on revient pour toi, après le livre des juges, parce qu'il commence par autant des juges. C'est pour ça qu'on a mis le livre de Ruth, là-bas, il se situe là. Mais le livre de Ruth, c'est un roman, c'est un roman de l'époque de la sagesse, précisément, pour expliquer ce qu'est la loi du lévirat. Lévir en latin veut dire le beau-père, yatom en hébreu. Et donc, quand une femme n'a pas eu d'enfant et que son mari est mort, eh bien, elle va épouser le frère de son mari. Par ailleurs, peut-être mariée, mais elle va l'épouser pour que le nom de son mari demeure, pour avoir un nom. Et c'est toute l'histoire du livre de Ruth, qui est bethléemite encore en plus. C'est-à-dire, elle est moabite en plus. Elle est moabite encore en plus. C'est-à-dire, elle est une étrangère. Et malgré cela, elle va devenir quelqu'un d'important dans la souche de David. Elle va être sur le chemin du salut. Et cela se fait justement par un petit rite qui est de ramasser la sandale. Si celui qui normalement, par exemple, le plus proche parent, s'il n'y a pas de frère, on prend le plus proche parent, si le plus proche parent refuse son droit de donner son nom, le nom du mari mort à une progéniture, eh bien, il lance sa sandale et un autre parent ramasse. Et c'est le geste que Jésus fait. Il ramasse la sandale de qui? Ah, de ceux dont je ne plus épouser. Mais c'est qui ce qu'on a fait épouser? C'est l'humanité pécheresse, bien entendu. Et Jésus a ramassé la sandale de l'humanité pécheresse, c'est-à-dire, moi, je prends sur moi le droit du Goël, ça s'appelle un Goël, c'est-à-dire un racheteur, je prends sur moi le droit du Goël, je risque ma vie pour l'enfant que je fais de trop. Et donc, c'est toute cette imagerie-là que les pères de l'Église, notamment, lisent dans « Je ne suis pas digne de l'éliminer la couronne ». C'est lui qui prend la sandale de l'humanité et qui va se marier avec l'humanité pour la sauver. Donc l'épouser. Rien de moins. Vous voyez que ce sont des schémas que vous retrouvez constamment dans le judaïsme et dans toute la Bible. Le schéma homme-femme, nous l'avons vu combien de fois dans l'Isaïe, il revient ici, à l'intérieur et au début du livre de Jean. Le lendemain, il regarde Jésus venant auprès de lui. Ruth, c'est le chapitre 4. Toute l'histoire se trouve au quatrième chapitre. Excuse-moi de ne pas avoir appelé. C'est toi un nom en Bethléem. Et que grâce à la prospérité que le Seigneur t'accorde par cette jeune femme, ta maison soit semblable à celle de Pérès, que ta main rentre en par Juda. Bon, écoute à donc Ruth, elle devint sa femme. Et l'histoire de la scandale, là, voilà. C'est un petit peu avant. C'est en Israël la manière de ratifier devant témoin celui qui avait droit de rachat, disons qu'à vous, ça fait l'acquisition de son profit et il retira sa scandale. Donc c'est de nouveau la coutume en Israël, en cas de rachat ou d'échange, pour valider tout à fait, voilà le terme qui est exprimé au verset 7, car 7, l'une des parties tirait sa scandale et la donnait à nous. Ou bien, plus exactement, la mettait devant, sur l'air, et l'autre devait la reprendre. On ne la donnait pas à l'autre, mais l'autre devait la reprendre, parce qu'il y avait un geste, une initiative. Donc, une allusion à ça. Peut-être, hein, que c'est cela, que cela vient dans le texte, en tout cas, hein, les pères de l'Église, ils n'oublient pas cette question. Et les reprises, comme je vous le disais, dans l'iconographie, disons. Le lendemain, il regarde Jésus venant auprès de lui. Il dit, bien auprès de lui. Et il dit, voici l'agneau de Dieu. Expression curieuse de dire cela d'un homme. Voici l'agneau de Dieu. Nous allons voir ça. Celui qui enlève le péché du monde. Celui-ci est à propos de celui dont moi je dis. Derrière moi vient un homme qui devant moi est arrivé, qui est devant moi demain, parce que premier de moi il était. Très bien. Et moi je ne le savais pas. Hein. Je ne le savais pas, mais moi non plus. Moi je ne le savais pas. Mais, afin qu'il fût manifesté à Israël, en raison de ceci, je vins moi, baptisant dans de l'eau. Moi je viens baptisant dans de l'eau, donc je fais un pur rite de préparation, si vous voulez, afin qu'il fût manifesté à Israël. Et il rendit témoignage, Jean, disant, j'ai considéré l'Esprit descendant comme une colombe du ciel, et elle demeurait sur lui. Et moi, je ne le savais pas. Mais celui qui me manda, baptisé dans l'eau, celui-là me dit, celui sur qui éventuellement tu verras l'Esprit descendant et demeurant sur lui, celui-ci est celui qui baptise en Esprit Saint. Donc il oppose un baptême d'eau, un baptême d'Esprit Saint, comme le font d'ailleurs tous les évangélistes. Et moi j'ai vu, et j'ai rendu témoignage que celui-ci est le Fils ou l'élu de Dieu, d'après les manuscrits. Certains disent le Fils, certains disent l'élu. De nouveau, il s'était tenu debout, Jean. Et d'entre ses disciples, deux. Et ayant fixé son regard sur Jésus marchant, il dit, voici l'agneau de Dieu. De nouveau, il est là. Et ils l'entendirent, les deux disciples, parlant. Et ils suivirent Jésus. Et s'étant tourné, Jésus, et les ayant considérés vivants, il leur dit, que cherchez-vous? Que cherchez-vous? Lui, Rabbi, ce qui est dit étant traduit maître, où demeure-t-il? Ah, le terme de demeurer qui intervient dans l'évangile, hein? Il va avoir également son avenir. Il leur dit, venez et voyez. ouvre les voies. Il vint donc, et il vit, où il demeure. Et c'est exactement où il demeurait. Et chez lui, il demeurait ce jour-là. L'heure était environ 10e. Donc c'est vers l'après-midi. C'était André, le frère de Simon-Pierre, enfin non, entre les deux, qui entendirent de chez Jean et qui le suivit. Il trouve celui-ci d'abord son pauvre frère, Simon. Et lui dit, nous avons trouvé le Messie. Ce qui est en train de lui, c'est. Il le mena auprès de Jésus. Ayant fixé son regard sur lui, Jésus dit, toi, tu es Simon, le fils de Jean, le fils de Yona. Là aussi, les textes ne sont pas tous d'accord. Yona, ça veut dire la colombe. Jean, ça veut dire Dieu fait grâce. Toi, tu seras appelé Képa, le rocher, hein, qui est interprété Pierre. Et il explique toujours le nom, Marc. Le lendemain, il voulut sortir. Le lendemain, hein, verset 29, verset 35, verset 43, le lendemain. Il voulut sortir vers la Galilée. Jésus s'en est dit, hein. Et il trouve Pierre, voilà, Pierre, Philippe, pardon. Il trouve Philippe. Et lui dit, Jésus, suis-moi. Or, il était Philippe de Bethsaïde, de la ville d'André, de Pierre. Et il trouve Philippe, Nathanaël. Et il lui dit, celui qui écrit qui Moïse dans la loi et les prophètes, nous l'avons trouvé. Moïse n'a écrit que la loi, semble-t-il, d'après la tradition du juge, c'est dans la loi. Nous l'avons trouvé. Jésus, fils de Joseph, celui qui est issu de Nazareth. Et il lui dit, Nathanaël de Nazareth, que peut-il être bon? Qu'est-ce qu'il peut dire de bon de Nazareth? Les hommes de Nazareth disent aujourd'hui, rien. Parce que le bon reste à Nazareth. Et lui dit, Philippe, viens et vois. Il dit, Jésus, Nathanaël. Nathanaël, ça veut dire Dieu a donné, hein, Dieu donné. Et il dit, Nathanaël, venant auprès de lui, et il dit à son sujet, voici vraiment un Israélite, en qui ruse il n'y a pas. Il lui dit, Nathanaël, d'où me connais-tu? Il y a une affaire de connaissance, en tout cas. On connaît, on ne connaît pas, on sait. Il répondit Jésus et il lui dit, avant que Philippe ne t'interpelle, toi étant sous le figuier, je te dis. Il lui répondit Nathanaël, Rabbi, toi tu es le Fils de Dieu. Toi, roi, tu es Israël. Et il répondit Jésus et il lui dit, parce que je te dis que je te vis en dessous du figuier, tu crois. Mais il lui dit, Amen, Amen, ah, il y a la déclaration de Jésus qui est Amen, hein? Amen, Amen, je te dis, vous verrez le ciel se trouvant ouvert, et les anges de Dieu montant et descendant sur le Fils de l'homme. Voilà. Donc voilà à quoi sert le magicien. Ça sert à découvrir les titres de Jésus. Vous aurez remarqué, verset 29, qui est repris un peu plus loin, verset 36, voici l'agneau de Dieu, hein, premier titre de Jésus. Puis vous voyez au verset 34, fils de Dieu ou élu de Dieu. Élu dans le sens de fils, dans le sens. Élu de Dieu, deuxième expression. Troisième expression, au verset 38 et au verset 49, Rabbi, c'est-à-dire maître, il est expliqué, au verset 38, c'est-à-dire hein, maître, Rabbi. Quatrième expression, au verset 41, le Messie,
Si nous avons au verset 45, fils de Joseph,
pas proprement parler un titre, c'est une carte d'identité, hein?
Du fils de Joseph.
Ben Yosef, Yeshua Ben Yosef. Bon, là c'est la détermination historique. Et on vient de Nazareth. Fils de Joseph, de Nazareth. Comme on donnait le nom des apôtres qui étaient de Bethsaïde. Bon, alors, nous avons ici un autre verset 48, si je ne m'abuse. Non, c'est verset 49, pardon. Ravis-toi, tu es le fils de Dieu qui est expliqué par roi d'Israël. Tout à l'heure, c'était fils élu, au verset 34, et maintenant, c'est fils roi d'Israël. Et puis, pour terminer, c'est qui a le titre? C'est Jésus qui se le donne. Et lui se donne le titre de fils de Dieu. Voilà donc toute une petite leçon de théologie qui nous est expliquée à travers des rencontres. Je vais faire la théologie en se rencontrant. Voilà. Qui est Jésus? Tout à l'heure, nous nous étions demandé qui est Jean-Baptiste. C'est un introducteur, comme Élie est un introducteur. Et maintenant, nous nous trouvons face à Jésus, qui est le personnage introduit. Alors, il y a une première chose que nous devons avoir en tête, me semble-t-il, lorsque nous prenons ces chapitres, c'est la vocation d'Élisée. Oui. Pourquoi? Mais parce que Jean-Baptiste est un personnage historique qui a une figure. Et cette figure de Jean-Baptiste, c'est aussi bien pour Saint-Jean que pour les autres,